Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le prix Hugues Capet 2013 vient d'être décerné à la biographie du roi Louis XV par le père Yves Combeau, un sujet en or évidemment pour Franck Ferrand. Bonjour cher Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On connaît ma prédilection pour Louis XV et son règne, mais qu'un religieux dominicain se penche sur le cas de ce souverain secret et licencieux, avouez que c'était déjà moins attendu.
Alors la biographie est parue aux éditions Belin dans la collection Portrait.
Oui, excellente collection dont nous avons déjà eu l'occasion de vanter ici les mérites. Elle réunit des biographies, comment dire, assez enlevées et qui n'ont rien de gros pavés indigestes. Elles sont toujours très inspirées, ces biographies-là. Eh bien, vous allez voir que celle-ci ne déroge pas du tout à la règle.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le règne de Louis XV est moins souvent cité que ceux de Louis XIV et de Louis XVI, et pourtant c'est un des plus longs règnes de l'histoire de France. Il s'étend sur 59 années, en plein cœur du XVIIIe siècle, période de bonheur et de prospérité pour le royaume, où les villes s'agrandissent, où les ports voient fleurir le négoce, où l'on bâtit partout des routes et des ponts, où frémissent les signes avant-coureurs d'une révolution industrielle à venir. Période de suprématie culturelle de la France, on parle français dans toutes les cours d'Europe et jusqu'en Russie. Les élites du monde entier lisent Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau. Période d'intense activité intellectuelle donc, qui voit sortir, vous savez, un à un les tomes de l'encyclopédie et qui voit œuvrer chacun dans son domaine. Jussieu, Buffon, le grand naturaliste, Quesnay, Bougainville. N'oublions pas non plus que ce règne de Louis XV, pendant lequel sont transfigurées des cités comme Bordeaux et Nancy, où sont bâties à Paris la future place de la Concorde, l'école militaire, l'église Sainte-Geneviève qui va devenir le Panthéon, cette époque est aussi le règne de Boucher, de Fragonard, de Vernet. Jamais les arts décoratifs n'ont été plus brillants, jamais on n'a porté plus haut les arts nobles de l'équitation, de l'escrime, du ballet, de la gastronomie. Et en même temps, c'est sous le roi Louis XV que la monarchie française, alors à son apogée, connaît la plus grave et la plus persistante des crises politiques. Le roi, pendant des décennies, va être en guerre contre les cours souveraines de justice qu'on appelle les parlements. Les parlementaires mènent une lutte sourde contre le pouvoir royal avec l'ambition de récupérer un peu des anciens droits féodaux. À la fin du règne, en 1770, Louis XV s'imposera enfin par un coup de majesté qui sera le dernier sursaut du régime avant la Révolution. Louis XV mène des guerres, toutes hors du territoire, il faut bien le préciser. Il gagne quelques batailles lui-même, dont Fontenoy. En 1763, le traité de Paris nous fait perdre l'Amérique française et des comptoirs aux Indes. Le retournement d'alliance qui nous a jetés dans les bras du vieil ennemi Habsbourg est alors considéré comme un fiasco. Voilà, en gros, pour le règne. Mais qu'en est-il du roi ? Louis XV, dans sa personnalité et sa psychologie, est une énigme. Orphelin au berceau, alors que mouraient ses parents et ses frères, il n'a dû sa survie qu'à l'autorité de la gouvernante des enfants de France, Madame de Ventadour, qu'il appelait Maman Ventadour, et qu'il la soustrait d'autorité aux saignées et aux purgations des médecins. Son arrière-grand-père, Louis XIV, meurt alors qu'il n'a pas 6 ans. Il est élevé sous la houlette de son grand-cousin, le régent, par une bande de barbons, au premier rang desquels son gouverneur, le duc de Villeroy, ne brille pas par l'intelligence. Le jeune souverain est fiancé à une infante d'Espagne, mais on tient plutôt à le marier à une princesse qui pourrait vite assurer sa descendance. Et finalement, à 15 ans, devenu un très bel adolescent, il épouse la fille inconnue d'un roi déchu de Pologne, Maria Leczinska, à qui, alors il faut dire qu'elle est plus âgée que lui, elle a 7 ans de plus, elle va lui donner une ribambelle d'enfants, presque uniquement des filles, que l'on numérotera pour s'y retrouver, Madame Première, Madame Troisième, Madame Sixième. Un fils seulement va survivre, le dauphin Louis, qui sera le père de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Lorsque la reine, trop lasse, ferme à son mari la porte de sa chambre, il va avoir des maîtresses, les filles du marquis de Nesle d'abord, je raconterai ça tout à l'heure, et puis Madame de Pompadour pendant 20 ans, en attendant bien sûr Madame du Barry. Louis XV est beau, grand, on dirait aujourd'hui sportif, habile à cheval et à tirer l'épée. Il parle d'une voix grave, un peu comme moi aujourd'hui, rocailleuse même, et se montre aussi charmant en privé qu'il peut être glaçant en public. Il faut dire que l'homme est timide, instable, qu'il se lasse très vite de tout. Il est d'humeur presque toujours sombre, nourrit une passion pour la maladie et la mort qui le hante littéralement. Il ne s'épanouit vraiment qu'à la chasse. Il aime de plus en plus les femmes et de plus en plus jeunes. Il redoute la nouveauté, les visages inconnues, les idées non conformes. Il passe de nombreuses heures seul à travailler, mais volontiers sur des dossiers parallèles et personnels, car il est de nature secrète et n'avance bien qu'à couvert. Il ne soutient pas le regard, il agit surtout en secret. Il se débarrasse de ses collaborateurs un à un avec une promptitude qui terrifie son entourage. Curieux homme, étrange roi, je vous l'ai dit, Louis XV est une énigme vivante.
Extrait de Sifa sur Europe 1, extrait de l'album La Voix des Rêves de Philippe Jarouski, c'est un album Europe 1.
Eh oui, et nous sommes donc en compagnie du père Yves Combeau. Bonjour mon père.
Bonjour.
On aimerait parler papauté et d'émission de pape avec vous aujourd'hui, mais il était prévu que nous parlions de Louis XV, auquel vous avez donc consacré cette très belle biographie dans la collection Portraits chez Belin, Louis XV, l'inconnu bien-aimé. Alors, ce que vous nous dites d'emblée, c'est que les circonstances de la naissance et de la prime enfance de Louis XV ne sont pas faciles. On est dans cette fin ténébreuse du grand règne.
Il est né dans une époque difficile pour la France, mais dans une famille qui était nombreuse. Mais malheureusement, oui, les épidémies n'ayant pas de remède connu à l'époque, la totalité de sa famille, à l'exception de son arrière-grand-père qui est Louis XIV, a été décimée en l'espace de quelques années.
On a ce tableau célèbre de l'Argilière qui représente Louis XIV avec son fils le Grand Dauphin, son petit-fils aîné le Duc de Bourgogne, l'aîné des frères de Louis XV, le Duc de Bretagne, et finalement tous ces héritiers de Louis XIV vont disparaître dans l'année 1712, c'est assez effroyable.
Et donc il se retrouve orphelin de père et de mère à 2 ans, si bien qu'il n'en aura aucun souvenir. Et c'est à l'origine de nombreuses particularités psychologiques aisément compréhensibles. Quand on n'a ni frère ni parent, on a le plus grand mal à se situer, a fortiori si l'on pose constamment sur vous un regard dévié par le fait que vous êtes un prince.
Alors c'est le mot qui compte, regard. Vous montrez dans votre biographie à quel point, pour Louis XV, sa vie entière va être une sorte de combat, de jeu de cache-cache avec ces regards que l'on porte, que l'on pose constamment sur lui, en vérité.
Oui, Louis XIV avait adopté une autre tactique, parce que Louis XIV aussi avait été exposé au regard constant, mais il avait choisi de polariser ce regard en opposant entre son intimité, que nous connaissons assez mal, somme toute, et le grand public, cette apparence extrêmement minutée, méditée et somptueuse. Louis XV ne déroge pas aux règles imposées par son arrière-grand-père, mais tente de ménager dans sa vie des espaces d'intimité, simplement parce que le siècle l'y porte. C'est le siècle où s'invente l'intimité familiale et l'intimité du couple. Il y parvient plus ou moins bien. On le lui reproche, mais c'est comme si on reprochait, mettons, à un souverain d'aujourd'hui de ne pas se comporter comme se comportaient ses ancêtres un siècle plus tôt.
Mais oui, c'est assez... Finalement, on est injuste peut-être envers ce roi. Alors, étant tout petit, il est orphelin, on l'a dit, de père, de mère, il n'a plus de frère. Il est vraiment seul au milieu de cette cour. Et à la mort de son arrière-grand-père, donc il est tout petit encore, il a 5 ans et demi, il se retrouve au milieu d'un clan de vieillards, nous dites-vous. Il y a sa gouvernante, Madame de Ventadour, il y a son gouverneur, le duc de Villeroy. Tous ces gens-là sont très âgés, très rigides.
Madame de Ventadour n'est pas rigide, c'est une dame qui a d'ailleurs connu une jeunesse un peu agitée. Et puis, vous savez, à 40 ans, on tente à préférer le secours d'une piété bien ordonnée et d'un confort bourgeois aux
agitations
de l'amour.
Elle était amie de Madame de Maintenon, faut préciser.
Voilà, évidemment. Et donc ce brave dame a très bien joué son travail, mais effectivement, elle avait l'âge d'être grand-mère. Et le duc de Villeroy n'était pas de la première jeunesse, c'est le précepteur qui était un évêque à la retraite, l'ancien évêque de Fréjus, était lui-même déjà considéré comme un vieillard encore en très bonne santé, mais un vieillard.
Quel genre d'élève est ce petit roi? Est-ce que c'est un élève appliqué? Est-ce qu'il est doué?
Très. Alors, Louis XV est un intellectuel de tempérament, il est plutôt timide, c'est un homme de l'écrit, il parle très vite et très mal. D'ailleurs, lorsqu'il aura mué, sa voix deviendra une voix très grave et assez grêle. Mm-hmm.
À la chasse, on reconnaissait de très loin cette espèce de voix grave, rocailleuse.
Oui. Et il surprenait toujours. Les gens qui ne connaissaient pas, lorsqu'ils entendaient sa voix pour la première fois, étaient très étonnés. Donc c'est un très bon élève et il apprend très facilement, notamment les disciplines scientifiques et l'histoire. Mm-hmm. Il a une mémoire très développée et il manie bien les concepts abstraits.
Il avait d'ailleurs une collection d'objets historiques, c'était une de ses passions, et lorsqu'il recevait dans ses cabinets privés, hein, il aimait montrer un certain nombre d'objets.
Oui, et une collection d'objets scientifiques tout à fait remarquables, des lunettes astronomiques, des cartes. C'est lui personnellement qui a dirigé la révolution de la topographie qui fait qu'on a pu renoncer aux plans en relief pour avoir des plans en deux dimensions. Et il me plaît de penser que Louis XV, oui, Louis XV, jouait avec des petites machines à vapeur.
Alors, à 13 ans, ce tout jeune roi devient majeur. Quel souverain sera-t-il ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous parlons aujourd'hui de Louis XV sur Europe 1, que son nouveau biographe Yves Combeau, qui est votre invité, Franck, appelle l'inconnu bien-aimé.
Et oui, alors ce Louis XV va être sacré en octobre 1722. On se rappelle les très jolies lettres de la princesse Palatine, hein, qui raconte ce voyage à Reims en 1722. Et puis donc il devient pleinement maître il est majeur. À l'âge de 13 ans, on est donc en 1700, tout début de l'année 1723, et pour autant, il ne prend pas lui-même la tête des opérations, c'est évident, hein, il est encore tout jeune, il va laisser gouverner ses premiers ministres successifs.
Voilà, il n'a jamais été question qu'il gouverne à 13 ans, même si c'est sa majorité légale, et donc il nomme un premier ministre qui est une sorte de quasi-régent qui dirige le gouvernement. Et sa particularité, c'est qu'il a laissé en place le troisième et dernier de ses premiers ministres, le cardinal de Fleury, pendant d'assez longues années, de sorte qu'il a réellement pris en main le gouvernement personnellement plutôt tard.
En 1740 en fait.
Hein. En 1740, donc il avait 30 ans.
Alors avant cela, évidemment, il a fallu marier ce jeune roi orphelin. Alors dans un premier temps, on l'a marié à une infante d'Espagne, la triste Pepa, comme l'appelait le nôtre, la pauvre, le moins qu'on puisse dire est que son destin n'aura pas été très heureux.
Non, mais les mariages de princes sont une espèce de marché où on essaye de faire fusionner deux entreprises, littéralement. Et le cas de la France est un peu compliqué, parce qu'il faut trouver une princesse qui soit de la bonne naissance pour la meilleure famille d'Occident, qui soit du bon âge, qui soit en bonne santé, qui ne présente pas de tare, qui soit susceptible d'avoir des enfants, qui ne soit pas trop vilaine, et dont le papa ne soit pas un souverain trop puissant, parce que ça entraînerait des et complications évidemment. Diplomatiques en cas de retournement. Alors, on a essayé l'infante d'Espagne, mais l'âge n'était pas le bon.
Elle était trop jeune.
Et comme on était très inquiets, puisque Louis XV n'avait pas de successeur, plus exactement, on ne savait pas très bien qui serait son successeur, et on risquait de déclencher une guerre si Louis XV venait à mourir, on a préféré renoncer à ce mariage, renvoyer l'infante d'Espagne chez elle, et choisir une princesse polonaise qui avait tous les avantages, sauf la naissance, puisque son père était un roi électif déchu, oui, mais qui était catholique, en bonne santé, souriante, gentille, saine.
Et elle était parfaitement nubile, elle avait 7 ans de plus que le jeune roi, oui. Lui a 15 ans, elle en a déjà 22. Pour elle, c'est une histoire extraordinaire. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques années, de raconter ici, évidemment, l'incroyable destin de Marie Leszczynska. Mais cette jeune princesse ne pouvait pas du tout imaginer faire un mariage aussi extraordinaire. Elle épouse le roi le plus puissant du monde. C'est un conte de fées qu'elle va vivre.
Oui, alors son père s'est évanoui quand il a reçu la missive. Parce que, encore une fois, son père avait été roi de Pologne, mais détrôné par un candidat, l'horrible Auguste de Saxe. Et donc, le pauvre Stanislas, qui était en exil à Wissembourg, en Alsace, s'est évanoui en recevant le courrier de Versailles. Bon, le premier ministre qui a fait ce mariage, le duc de Bourbon, a quand même été assez sévèrement critiqué parce qu'on avait tapé un peu bas pour marier le roi de France. Mais Marie Leszczynska s'est très bien conduite, ça s'est fort bien passé. Puis ensuite, on a trouvé une solution diplomatique extrêmement brillante qui était de donner à Stanislas, dont Marie Leszczynska était la seule héritière, la souveraineté de la Lorraine, qui n'était pas française. Et à la mort de Stanislas, logiquement...
On a donc récupéré la Lorraine.
La Lorraine est passée à sa fille et donc est rentrée dans le giron français.
Ça fait partie des grands bénéfices du règne de Louis XV. Hein. Il ne faut jamais oublier la Lorraine.
Hein. Oui, et pour la France et pour la Lorraine elle-même, parce que c'était mettre fin à plus de deux siècles de guerre qui avaient ravagé ce pays. Comme il est tout voisin de la France et qu'au-delà se trouve l'Allemagne, les armées des deux pays passaient leur temps à ravager la Lorraine.
Alors ce tout jeune roi est d'une beauté fracassante et il n'en est pas moins parfaitement fidèle à son épouse. Elle va lui donner énormément d'enfants, alors presque que des filles. C'est presque une malédiction quand on est reine de France.
Oui, puisqu'en France la loi Salique s'applique, donc il fallait des garçons. Des garçons, il y en a eu deux, dont un qui a survécu, qui était un personnage très intéressant et encore assez mal connu. Mais c'est vrai que l'histoire des filles, alors on dit, c'est probablement faux, que lorsqu'on est arrivé à la 7e, qu'on a dit au roi, alors ça sera donc Madame 7e, il leur a répondu sèchement, ça sera Madame Dernière. Bon, c'est une histoire qui est apocryphe. Il aimait beaucoup ses filles, dont il était extrêmement proche, et il a modifié le cérémonial de la cour pour pouvoir vivre de façon familiale avec elles, c'est-à-dire dans un appartement au sens moderne, avec des chambres qui étaient au contact les unes des autres.
Pour des raisons d'économie, on va quand même éduquer un certain nombre d'entre elles à l'abbaye de Fontevraud, on les envoie à Fontevraud, elles ne reviendront que plus tard à la cour. Et c'est vrai que Louis XV va leur donner ses fameux surnoms, hein, Coche, Graille, Chiff, etc. Il vit de façon assez bourgeoise, finalement, dans cette famille.
Non, alors il ne faut pas... C'est tentant de voir ça comme ça, parce que nous plaquons nos préconçus. Le 19e a adoré jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire se plaquer lui-même sur les siècles qui l'ont précédé. Non, les témoins disent que personne n'oublie jamais que le roi est le roi, et que même dans sa plus grande intimité, il y a un cérémonial extrêmement précis, et d'autant plus délicat à observer qu'il n'est pas écrit.
Eh oui.
Et le moindre mouvement du roi, le moindre mouvement physique du roi déplace des régiments entiers. Il faut imaginer le simple fait de faire sortir un carrosse pour aller à Marly, le carrosse a 14 chevaux. Donc, il est précédé et suivi par des brigades. Bon. Donc, au contraire, le cérémonial français est le plus lourd qu'il puisse imaginer. Mais Louis XV essaye d'avoir des liens de tendresse personnelle avec ses amis et avec sa famille. Et bricole, sans contact avec un monde bourgeois qu'il ignore entièrement, bricole une intimité familiale.
On pense évidemment à la formule du prince de Crouy qui dit que on était en parfaite liberté dans les soupers, dans les petits soupers privés du roi, sauf qu'on n'oubliait jamais qu'on fut avec son maître.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck consacré maintenant aux infidélités conjugales du roi.
Ben oui, ça ne pouvait pas durer indéfiniment, cette fidélité conjugale. Le marquis de Nesle avait 5 filles, figurez-vous donc, 4 vont être tour à tour les maîtresses de Louis XV. En 1738, le roi n'a que 28 ans, et pourtant il a déjà 13 ans de mariage avec sa femme plus âgée, nous l'avons dit, et 8 enfants. Son valet de chambre, Bachelier, voyant bien que le roi ne se décide pas à franchir le pas, va le pousser littéralement dans les bras de la charmante Madame de Mailly, bientôt secondée par sa cadette, Pauline Félicité, qui vient d'épouser le marquis de Vintimille. Oh, elle n'est pas bien belle, Madame de Vintimille, il faut le dire, mais elle a un esprit vif, un petit côté un peu homasse comme ça, mais très direct, qui plaît beaucoup au roi et qui le séduit, parce qu'il n'est pas habitué à ce qu'on lui parle aussi, j'allais dire rudement, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas très sincèrement. Et cette fois, il va tomber amoureux. Hélas, Madame de Vintimille ne tardera pas à mourir en couche, en donnant au roi un bâtard, le marquis du Luc, surnommé Demi-Louis, tant il ressemble trait pour trait à son père. Vient alors le tour de la plus jeune sœur, Madame de Lauragais, en attendant que le roi ne s'éprenne vraiment d'une quatrième sœur de Nesle, Madame de la Tournelle. Elle sera bientôt la duchesse de Châteauroux. La seule des 5 sœurs qui ne passera jamais par le lit du roi est Madame de Flavacourt, qui disait néanmoins à qui voulait l'entendre que s'il fallait, elle saurait bien se dévouer néanmoins. Évidemment, la cour rit sous cap de ce penchant royal exclusif pour les filles du marquis de Nesle. On se passe bientôt cet épigramme sous le manteau. L'une est presque en oubli, l'autre presque en poussière, la troisième est en pied, la quatrième attend. Pour faire place à la dernière, choisir une famille entière, est-ce être infidèle ou constant ? De toutes, Madame de Châteauroux est donc la plus belle, la plus brillante, la plus ambitieuse aussi. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» a lancé le roi la première fois qu'il l'a vue. « Elle est rusée, elle est fière, intelligente, cette Madame de la Tournelle. Elle va tout faire pour tirer parti de cette première inclination. » Évidemment, pour sa sœur aînée, Madame de Mailly, à qui la mort de Vintimille a rendu son royal amant, il y a de quoi s'alarmer. « Ma sœur, lui dit-elle, serait-il possible ?»« Impossible, ma sœur !» Menteuse petite Tournelle. La future duchesse de Châteauroux a eu l'intelligence d'intéresser son oncle, le pendable duc de Richelieu, à ses affaires. Pas oublier que Richelieu est un personnage essentiel à la cour. Il est premier gentilhomme de la chambre, il a l'oreille du roi, il a la réputation du plus galant homme de France. Il va, par petites touches, persuader Louis XV qu'il n'aime plus Madame de Mailly et qu'il adore déjà Madame de la Tournelle, et que lui, Richelieu, peut se charger de rendre possible de faciliter le passage de l'une à l'autre. Voici ce que ce diable de duc insinue dans l'esprit du souverain, selon lui, évidemment. Je cite Richelieu. « Elle, donc Madame de la Tournelle, doit être une conquête. Vos généraux ne feront point cette conquête pour vous, sire. Elle ne sera point conquise si vous ne la conquérez pas. Assurément, vos pareils ont des avantages, mais le plus grand en amour est d'être jeune, beau comme votre majesté, et surtout d'être aimable. Une maîtresse n'est point un portefeuille, et si vos ministres vous apportent le leur à votre conseil, je doute fort qu'ils puissent mettre Madame de la Tournelle dans vos bras. Il faut lui plaire, et commencer par lui dire que vous êtes épris. Alors le roi va se jeter à l'eau, si je puis dire. Elle fut si étonnée de notre accoutrement que la surprise d'un lieu d'entretien, ce dont rirait longtemps, ajoute le duc de Richelieu, c'est que la première déclaration d'amour du roi à Madame de la Tournelle, le roi la lui a faite en grande perruque carrée. Il ne pensa pas à la quitter, il avait donc la perruque sur sa tête. Et Madame de la Tournelle semblait y chercher son beau visage sans oser encore l'y découvrir. Enfin, la visite fut courte, tout était dit en se voyant. L'intelligence de Madame de la Tournelle, c'est qu'elle va savoir ne pas se donner aussi facilement au roi. En fait, elle entendait évidemment ménager et elle entendait négocier ses charmes en quelque sorte. Elle ne se rendrait, dit-elle, qu'à condition. Elle voulait être reconnue, imposée à la cour par le maître. Elle voulait avoir son carrosse, son appartement et même un traitement, et même que ses enfants fussent légitimés s'il en venait. On est très étonné, évidemment, de son attitude. « Je m'y attendais, écrit-elle au duc de Richelieu. Tout le monde est surpris. Je ne vois pas où est la sottise que j'ai faite en refusant honnêtement la petite visite. Je vous avouerai que je m'en remercie même, et je m'en sais le meilleur gré du monde. Je n'apporte pas autant de vivacité que vous dans cette affaire, et je m'en trouve bien. Tranquillisez-vous, cher oncle. » Et oui, car Richelieu est son oncle, par alliance. « Tout ira bien. » Elle s'était mis en tête de faire de Louis XV un grand roi, nous dit par ailleurs Émile Henriot, et il faut bien convenir en somme que c'est à elle qu'il dut pour la première fois d'assumer les prérogatives de son état, puisque c'est sur le conseil de la favorite qu'il alla en 1743 prendre le commandement de l'armée des Flandres et affronter bravement le feu de l'ennemi à l'acclamation du pays tout entier. Hélas, ce sera non pas à cette campagne, mais à celle de l'année suivante, en 1744, que le roi va tomber malade. Et vous savez qu'il est à Metz. Quand on dit malade, il est même aux dernières extrémités. Il faut lui apporter les sacrements. Et vous avez autour du lit le parti dévot qui s'active et qui exige le renvoi de la maîtresse. Le roi est faible, le roi se croit déjà presque dans la tombe, il consent. La maîtresse, la favorite en titre, est chassée. C'est la fuite pour elle, une fuite assez honteuse sous l'indignation populaire. D'autres lettres de la duchesse à Richelieu permettent de la suivre dans l'abaissement et l'humiliation, écrit Henriot, et elles sont pathétiques, ces missives, toutes remplies d'espoir, de fureur et de projets de vengeance contre les méchants qui l'ont détrônée, mais qui périront si le roi échappe. Elle ne doutait pas de son retour. Et en effet, ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, le roi, une fois rétabli, va revenir à de meilleurs sentiments envers elle. Il va lui restituer ses différentes prérogatives. Il va même lui faire porter l'assurance de sa tendresse par le ministre Maurepas, qui hier encore était le plus acharné dans le conseil contre la favorite. Elle n'eut que le bonheur de la victoire, mais non point ses profits, écrit Henriot. Elle mourait presque au même instant, persuadée d'être empoisonnée de la main de ce Maurepas. Et c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce que Maurepas, qui lui-même allait se promenant dans les salons en disant qu'il avait fait assassiner, qu'il avait empoisonné Madame de Châteauroux, est-ce que Maurepas était pour quelque chose dans son trépas? Il faut croire plutôt, et très probablement, que les très grandes alarmes qu'elle avait vécues et l'échauffement terrible avec lequel elle avait traversé les épreuves de la maladie du roi à Metz l'avaient portée plus vite qu'elle n'aurait voulu vers la tombe.
Rinaldo sur Europe 1, composé par Handel, extrait de l'album La Voix des rêves de Philippe Jarowski. Je rappelle que c'est un album Europe 1. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et je vous rappelle que jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons au roi Louis XV avec vos réactions nombreuses qui nous parviennent sur la page Facebook de l'émission ainsi que sur le site europe1.fr, Franck.
Oui, la grande chance de Louis XV, nous dit Patrick, aura été d'être bien entouré et conseillé. Et tout de suite, il ajoute, mais l'abandon de Montcalm, la perte du Canada, des Indes. Et alors, 1, 2, 3, 4, dans 5 messages, mon père, pour nous parler de cet abandon de l'empire colonial de l'époque. À croire que les auditeurs n'ont retenu que ça du règne de Louis XV.
Je m'accroche à mon micro pour conserver mon calme et mon équanimité. Bon, alors d'abord, Monsieur Ferrand, vous racontez admirablement, mais les histoires des sœurs de Nel, si vous les piochez dans les auteurs que vous avez cités, c'est du pipeau.
Émile Henriot, en l'occurrence.
Oui, Émile Henriot. Donc il s'appuie sur une correspondance tout à fait imaginaire, écrite par un polygraphe qui a publié le bouquin en question, qui s'appelle Mémoire de Richelieu et correspondance, en 1792, et tout est entièrement imaginaire. Donc il y a bien eu, effectivement, des relations de Louis XV avec les sœurs de Nel, trois d'entre elles, d'ailleurs, pas la quatrième.
Et, pas Madame de Lauragais, en fait.
Pas Madame de Lauragais. Et ce sont des relations bon, qui ont un côté amusant, si l'on veut, mais tout ce qui est de l'ordre du dialogue, tous les personnages mis en jeu, tout ça est entièrement fictif.
Mais il faut bien faire vivre tout ça, n'est-ce pas ?
Il faut bien faire vivre les imprimeurs, oui, je suis d'accord, moi aussi je suis pour...
Pas les imprimeurs, l'histoire en l'occurrence.
Pardon, excusez-moi. Vous savez, nous autres les historiens, on est un peu des bonnets de nuit, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de passer derrière, de se dire, bah non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas possible, ça peut pas se réaliser comme ça, etc. etc. Parce que la réalité de l'histoire est à la fois plus complexe et moins romantique que ce que nous voudrions. Alors pour le Canada, écoutez, c'est très simple, nous sommes en guerre, c'est une sorte de guerre pan-européenne avec une annexe américaine. Les armées françaises sont engagées en Allemagne, et loin en Allemagne, dans le Hanovre, c'est-à-dire loin de la France. Et en Allemagne, nous nous conduisons bien. Toutes les batailles ne sont pas victorieuses, mais l'ennemi ne pénètre absolument pas en France. Problème, puisque nos armées sont engagées en Allemagne, les Anglais ont les mains libres en Amérique. Or, eux ont le projet raisonné et construit de prendre les colonies américaines. Et nous, on a juste un projet défensif, qui est une mauvaise façon d'ouvrir la bataille. On n'a pas de troupes à transporter là-bas. Je rappelle que les soldats sont volontaires, donc on ne peut pas lever des hommes indéfiniment. Et ensuite, on a une marine qui n'a pas été réarmée depuis quelques années, parce que tout simplement, elle avait peu combattu. Donc on a des bateaux qui sont un peu anciens. Là-dessus, un peu de malchance, un peu d'inexpérience du commandement, la marine coule en deux batailles. Et une marine, ça ne se reconstruit pas. Donc, au bout de quelques mois, Louis XV tient le raisonnement suivant. On ne sauvera pas l'Amérique. C'est pas la peine d'y aller, on la sauvera pas. Donc, on arrête la guerre le plus vite possible, ce qui fut. On sauve les îles, parce que les Anglais avaient aussi pris les îles des Antilles. Or, elles rapportaient énormément d'argent, contrairement au Canada. Le Canada, ça exporte des peaux de bêtes. Un point, c'est tout.
Et de la morue.
Ouais. Donc, on sauve les îles des Antilles. On réarme à tour de bras. Et dès qu'on a suffisamment de marine pour repartir, on repart. Ce que nous fîmes. Simplement, Louis XV était déjà mort. C'est la guerre d'Amérique que nous avons gagnée là-bas, alors qu'on n'y avait plus aucune base, dans la baie de Yorktown, face à Norfolk. Et à ce moment-là, les Anglais nous ont rendu la Louisiane.
Sur un plan diplomatique et militaire, Louis XV va prendre une décision absolument extraordinaire en 1756, c'est-à-dire que contrairement à toute la tradition diplomatique française depuis plus d'un siècle, il va décider de retourner les alliances et de s'allier à la grande puissance catholique Habsbourg, à l'impératrice d'Autriche. Ça n'a pas été une décision qui a été couronnée de succès, puisque la guerre de 7 ans est un échec pour la France.
C'est un échec à cause de l'Amérique, mais en Allemagne, c'est un succès. C'est un succès qui ne sert à rien, mais nous étions en position défensive, donc ça nous a défendus. Voilà. L'idée était assez simple. Les Habsbourg étaient l'autre puissance européenne, nous entouraient avec la Belgique, l'Empire d'Allemagne et l'Espagne. Et donc, on avait une alliance à revers avec les puissances protestantes qui étaient traditionnellement la Prusse et l'Angleterre. Or, l'Angleterre devient un concurrent structurel à cause de l'Amérique, et la Prusse est un allié totalement impondérable sur lequel on ne peut pas du tout compter. C'est Frédéric II qui retourne sa chemise tous les 6 mois. Donc, le raisonnement de Louis XV est simple. Pourquoi ne pas renoncer au système traditionnel qui ne fonctionne pas, parce que de fait, il ne fonctionnait pas, et inventer de retourner le système comme on retourne une chaussette, en négociant avec les Autrichiens, sachant que de toute façon, ils ne nous menacent plus, parce que nous avons beaucoup avancé dans le nord et dans l'est, jusqu'à l'Alsace, et que l'Espagne n'est plus au Habsbourg, mais à un cousin du roi. Alors, ça n'a pas été un succès immédiat, et ça n'a pas, si je me place un petit peu plus loin, ça n'a de toute façon pas répondu au problème de fond qui était la question coloniale en Amérique.
Louis XV mène, alors on en a beaucoup parlé bien entendu, mène une diplomatie parallèle, son fameux, le fameux secret du roi. Est-ce qu'on peut dire que cette diplomatie a gêné les affaires de la France? Est-ce que le roi en quelque sorte travaillait contre son propre gouvernement?
Ça les a un petit peu gênés, mais ce sont des questions d'exécution, c'est pas des questions fondamentales. Et puis la diplomatie secrète n'a battu son plein en réalité que pendant 4 ou 5 ans, c'est-à-dire la préparation du retournement des alliances. Après, elle s'est quasiment éteinte. Par ailleurs, c'est une époque qui aime beaucoup le secret. Alors ça, pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que là, vous pouvez lire des romans de KPDP, vous y trouverez des choses vraies. Ils adorent les messages secrets, les écritures de fantaisie, les codes, les trous, les grilles, les chevaliers qui galopent, les abbés qui transportent des choses sous leur chapeau. Ça, c'est absolument vrai. On a toute la documentation qu'il faut. J'ai trouvé des trucs très marrants au cours de mes années de recherche. Et puis très émouvant aussi, parce que c'est quand même touchant. Et par ailleurs, on considère que le secret est un instrument de pouvoir. C'est-à-dire que plus vous gardez l'information pour vous, et plus vous êtes maître de ce qui se passe. De sorte que Louis XV a été dressé dans l'obsession du secret, et que comme ça correspondait à son tempérament naturel, Louis XV ne dit rien, et il écrit beaucoup, mais il fait reprendre sa correspondance une fois que son partenaire n'en a plus l'usage. Si bien que nous conservons très peu de choses écrites de lui, et pratiquement aucune parole authentique. Tout ce qu'on met dans la bouche de Louis XV, c'est une invention du XIXe siècle. Mmh.
Il y a quand même chez ce roi, outre cette obsession du secret, une sorte de dissimulation permanente. Et l'on pense bien sûr à la succession des renvois de ministres, donc Argenson, Machaut, Maurepas, bien sûr Choiseul, qui du jour au lendemain apprennent qu'ils ne sont plus désirés.
Oui, mais si vous voulez sauvegarder l'autorité de votre gouvernement, il faut bien taire un certain nombre de choses. C'est-à-dire, si vous laissez planer que le ministre va être renvoyé dans les 3 mois qui suivent, le ministre ne peut plus gouverner, tout simplement parce qu'il n'a plus aucune autorité. Pour prendre un exemple d'actualité, ça va dater cette émission, le pape Benoît XVI vient de démissionner. S'il avait annoncé sa démission il y a 3 mois, tout le monde serait entré dans une phase de transition et il n'aurait plus rien, n'aurait pu se décider.
Donc le secret fait partie du gouvernement, ça c'est ce que...
Le secret est un instrument de pouvoir.
Bien sûr.
Et j'ajoute d'ailleurs que c'est un secret qui nous amuse parce qu'il est spectaculaire, mais qui est beaucoup moins étanche que le secret actuel du gouvernement d'aujourd'hui, puisque nous ne savons rien sur les futures lois de finances, nous ne savons rien sur ce qui se passe à l'Élysée, et contrairement à Versailles où on pouvait entrer dans pratiquement toutes les pièces, allez donc vous promener dans les salons de l'Élysée pour voir à quoi ça ressemble.
Alors justement, nous allons entrer nous dans les cabinets et les suppléments de Versailles, nous allons essayer de découvrir ce qu'était au quotidien la vie du roi Louis XV.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 d'Orphée Eurydice, composé par Jean-Sébastien Bach, que vous retrouvez sur l'album La Voix des rêves de Philippe Jarouski.
L'emploi du temps du roi Louis XIV était parfaitement réglé. C'est Saint-Simon qui disait qu'avec un almanach et une montre bien réglée, on pouvait savoir où qu'on fût exactement ce que faisait le roi à n'importe quelle heure. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec Louis XV. On a l'impression d'un certain flottement. Yves Combeau, ce n'est plus tout à fait la même rigueur.
Pas tout à fait la même chose, mais presque. Saint-Simon a un tout petit peu exagéré. C'est absolument vrai quand le roi se trouve à Versailles pour une journée normale. Mais dès que le roi se déplace, dans un château mineur comme Rambouillet ou Marly, l'emploi du temps devient quand même plus souple.
Oui.
Cela dit, il est vrai que chaque jour, il y a conseil, c'est-à-dire gouvernement, et il y a les offices liturgiques, la messe et le salut du Saint-Sacrement, auxquels le roi assiste tous les jours. Donc lorsqu'on pense à la fesse à propos de Louis XV, pardonnez-moi d'être vulgaire, il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un monde de croyants qui ont une vie religieuse très intense.
Mais
et
alors
Louis XV n'est pas un hypocrite.
Et dans le cas de Louis XV, c'est une foi, c'est une piété chevillée au corps. Et nous avons vu à travers très rapidement l'épisode de la maladie de Metz que le roi, évidemment, à chaque fois qu'il se sent malade ou pas très bien, retourne à la religion. Il va le faire un certain nombre de fois dans son règne, notamment pendant toute la faveur de Madame de Pompadour. Est-ce qu'il y a une sorte de divorce chez lui entre les obligations du chrétien et l'appel de la chair, tout simplement?
Non, mais il y a, y, a, y a une tension interne, il y a une mauvaise conscience tout simplement. Il faut dire qu'on avait encouragé les princes à avoir des maîtresses parce que dans la mentalité traditionnelle médiévale, ça faisait en quelque sorte partie des privilèges de leur condition et c'était aussi l'affirmation de leur virilité, ce qui est extrêmement important dans l'univers mental du Moyen-Âge. Et personne n'avait fait reproche à Louis XIV d'avoir des maîtresses, personne. Mais le siècle change. Nous, on est obsédé par l'idée d'un XVIIIe siècle frivole. En fait, il faut imaginer que le XVIIIe siècle est plus rigoriste que le XVIIe. De sorte que la morale, notamment la morale du couple fidèle et qui élève soi-même ses enfants, est une invention de la fin du XVIIe qui triomphe au XVIIIe. On a fait reproche à Louis XV de ce que personne n'aurait reproché à son prédécesseur. Et lui en souffrait parce qu'il le prenait sincèrement. Il en a beaucoup souffert. Donc, lorsqu'il est à l'article de la mort, ce qui lui est arrivé deux fois en réalité, une fois à Metz et une fois à sa mort pour de bon, il se confesse. Il fait une confession générale, il renvoie la dame avec qui il est, mais le problème de Metz, c'est pas que la dame soit partie, c'est qu'elle soit partie publiquement, c'est-à-dire que l'évêque de Metz et le premier aumônier de la cour aient humilié le roi en demandant un renvoi public. Et ça, il a été très blessé par ça. C'était déjà assez qu'il ait des problèmes de conscience, si en plus on le faisait étaler publiquement, lui qui détestait étaler sa vie privée. Et du coup, ces deux prélats, ils n'ont pas été démis, d'ailleurs le roi n'a pas le pouvoir de démettre un évêque, mais ils ont été tenus à la marge.
Alors, j'ai dit tout à l'heure en introduction de cette émission que Louis XV était une personnalité complexe, qu'il avait une sorte de fascination pour la mort et pour la maladie. On a ça, alors là, des témoignages qui ne sont pas apocryphes, que je sache, sur le sujet.
Alors, pour la maladie, peut-être pas, parce qu'il est, c'est un paradoxe, c'est à la fois un grand sportif, grand chasseur, toujours dehors. Il ne faut pas du tout imaginer un Louis XV en dentelle. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, il y a une histoire de perruque dans votre récit, ce n'est pas possible, il n'a jamais porté la perruque, il portait ses cheveux naturels jusqu'à sa mort. Donc, c'est un hypochondriaque. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dehors, il ne craint rien, sauf qu'il attrape un rhume une fois tous les 10 ans, et là, il croit que c'est la fin. Bon, c'est comme ça. La mort, oui. La mort le fascine. Il aime beaucoup les séances de médecine légale. Il aime laisser ouvrir les animaux et quelquefois les hommes. Et il a un drôle d'humour, une espèce d'humour noir très brutal sur la mort des autres, qui a beaucoup déconcerté, surtout que autrement, il était très délicat. Il déteste blesser.
En dehors de ça, oui.
Il a rarement de paroles cassantes. Il est très attentif envers les petits. Il est assez charitable. Par exemple, lorsque sa chasse, par accident, traverse un champ qui vient d'être emblavé, il fait rembourser le paysan immédiatement pour la perte subie. Ce que la plupart des chasseurs ne faisaient pas. Mais voilà, quand une personne meurt, il a une drôle d'attitude assez froide et cassante. Mais je rappelle, il a été orphelin de père et de mère à 2 ans. Ça aide, je pense, assez bien à comprendre.
Vous nous l'avez décrit d'emblée comme un intellectuel. Qu'est-ce que l'on sait de son esprit, de sa... Est-ce que c'était quelqu'un de brillant dans la conversation ?
Non, c'est quelqu'un qui est très courtois. Ce n'est pas quelqu'un de brillant dans la conversation. Il parle clairement, mais assez peu. Il communique manifestement beaucoup par le regard et par le geste. Il ne parle jamais en premier, quoique ses réponses soient toujours précises. Il a un certain humour. Le problème, c'est que ces prises de parole publiques sont rares et pénibles, il n'aime pas ça. Et ces prises de parole privées sont recouvertes par ce secret qu'il impose, qui fait que les circonstances privées de sa vie, et notamment le cercle amical du soir, ce qu'on appelle les petits soupers, où il y a une quinzaine de personnes, hommes et femmes, tout ça très correct, très, très, très sage, on n'en parle jamais. Le duc de Crouy en a un tout petit peu parlé, il y était. Mais donc lorsqu'on lit dans des mémoires ou dans un roman des scènes qui sont supposées se passer à ce moment-là, on est absolument sûr que c'est faux. Tout simplement parce qu'il est explicite que les membres des petits soupers n'en parlent pas. Donc en fait, on ne sait pas grand-chose.
Oui, finalement, vous allez nous dire que le personnage est encore plus mystérieux que ce qu'on pensait, puisqu'on a très très peu de sources. Alors on a quand même du fort de Cheverny, on a le prince de Croy dont vous parlez, enfin il y a un certain nombre de personnalités.
De Mercy, on a quelques sources, et puis on peut faire Luynes,
bien sûr,
et puis, le duc de Luynes. On peut après jouer son petit policier, à faire des recoupements, à dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Moi je me suis beaucoup amusé à faire la topographie, par exemple, de Versailles. Elle est précise, elle est codée, et donc si je tombe sur un document qui se présente comme un document historique, mais que la topographie est fausse, je sais que l'épisode est faux.
Oui, c'est ça. C'est un indice qui permet de distinguer le bon grain et l'ivraie. Alors, est-ce qu'on peut dire que Louis XV avait des goûts particuliers pour certains arts, pour certaines disciplines? On sait qu'il se méfiait beaucoup de l'esprit philosophique, hein, et du mouvement encyclopédiste, qu'il avait en revanche un véritable penchant pour l'architecture et l'urbanisme, par exemple.
Il a soutenu le projet encyclopédique tant que le projet encyclopédique était un projet scientifique. Et l'encyclopédie avait un caractère officiel. Elle avait reçu ce qu'on appelle le privilège, une sorte de patronage officiel du gouvernement. Mais dès que l'encyclopédie s'est mêlée de philosopher, là, évidemment, le privilège a sauté et l'encyclopédie a connu les malheurs qu'on sait. C'est donc un bon scientifique et pour les arts, il est très bien instruit, il est complètement imperméable à la musique. J'ai écrit dans le livre qu'il détestait danser. En fait, on m'a fait observer que le centre de recherche d'histoire de la musique à Versailles a déterminé qu'il dansait correctement, mais ça n'en fait certainement pas un musicien.
Il courait d'ailleurs les bals publics, hein, il faut dire, dans les années 1741, 42, 40, 44, on le voit dans les bals publics.
Bah, c'est-à-dire, de toute façon, il y a des
bals. En dehors des bals de cour, quoi, disons.
Il y a des bals à la cour, et puis à l'extérieur, il ne daignait pas de se mêler à des occasions d'amusement, mais tout en restant lui-même sur la réserve. Lorsqu'il participe au bal costumé, non seulement il n'est pas reconnaissable, mais comme je l'ai noté, son costume l'empêche de danser.
Oui, par exemple, le fameux bal des Ifs, voilà. où est officialisée sa liaison avec Madame de Pompadour.
Voilà, et donc on a un dessin d'époque, ce qui est fascinant parce qu'on en a très peu, un dessin de la scène, une espèce de croquis de journaliste, si vous voulez, où on voit tout le monde alors en chapeau chinois, en bergère, voilà. Et le roi apparaît en if taillé, c'est-à-dire en buisson.
Alors en arbre du parc, on va dire.
Voilà, ça me fait toujours penser une bande dessinée qui voilà. Et comment on fait si on danse? Vous savez, dans Gaston Lagaffe. Et si on danse, on fait comment? Il aimait énormément l'architecture et je pense que chez lui, c'est un tactile. Il aime expérimenter. En science, il aime avoir des machines ou des objets pour expérimenter le point de science. Et en architecture, on sent qu'il aime toucher. Il travaille lui-même sur les dessins avec le premier architecte qui est Jacques-Ange Gabriel. Et chaque monument qu'il construit, c'est discret, puissant, bien construit, solide, de très bon goût et on a envie d'y passer la main pour voir.
Vous avez sous-titré l'ouvrage « L'inconnu bien-aimé ». Alors, il est certes bien-aimé au moment de la célèbre maladie de Metz, et puis ensuite, il va y avoir la victoire de Fontenoy en 45, hein, qui va faire de lui une sorte de roi très populaire. Mais à la fin de son règne, ça n'est plus le cas du tout. Et notamment, la faveur de Madame du Barry a pesé contre lui et a finalement beaucoup, beaucoup égratigné son image. À la fin du règne...
La fin du règne a été difficile pour des raisons politiques. On s'est effectivement mis en tête que sa popularité avait beaucoup diminué. Alors, il est exact que sa popularité a diminué parce qu'au bout de 59 ans de règne, l'usure se présente. Et puis, les succès, plutôt les insuccès de la guerre de 7 ans, une pression fiscale assez forte, une conjoncture économique médiocre, tout cela avait usé. Mais... 1. Madame du Barry était inconnue du grand public. 2. Dans les dernières années avant sa mort, en entrant dans Paris pour sanctionner le Parlement, il est acclamé et adulé par la foule alors qu'il descend de son carrosse pour vénérer le Saint-Sacrement parce qu'un prêtre passe pour le porter à un malade.
Vous avez remis quelques pendules à l'heure, Yves Combeau. Louis XV, l'inconnu bien-aimé, c'est dans la collection Portraits chez Belin. Merci beaucoup.